Direct en jeu, la radio insolite. Ce que j'adore, c'est quand j'ai un invité qui me dit le contenu du livre est plus inspirant que l'auteur. Est-ce que je peux parler au contenu du livre ? Bonjour, Patrice.
Bonjour. Bien sûr, le contenu du livre, oui.
Passe-le-moi tout de suite. Passe-le-moi tout de suite le contenu du livre. Non, mais c'est tout.
Eh bien, le contenu, c'est en fin de compte, lorsque j'ai fini ma modeste carrière de chef d'établissement, je me suis rendu compte qu'il y avait... J'avais eu beaucoup de collègues dans ma carrière qui déprimaient, qui étaient en burn-out, tout ça. Et je me suis dit, c'est pas possible que ce ne soit que dans mon département. Et j'ai envoyé un mail à tous les collègues personnels de direction de France en leur demandant de remonter des témoignages. Et j'ai reçu des centaines de réponses. Et ça m'a moi-même époustouflé. Je veux dire, c'est édifiant le mal-être de tous les personnels de direction à cause d'une hiérarchie qui est composé de personnes bien plus soucieuses de leurs intérêts personnels que du fonctionnement de l'éducation nationale. Et donc, j'en ai fait un livre qui est terrible. C'est un terrible constat.
Alors, en effet, ta carrière, tu l'as fait... T'es passé dans tous les échelons, on va dire, jusqu'à cadre de direction. On a eu l'occasion de se retrouver l'an dernier parce que tu avais fait quelque chose d'assez original, puisque tu as sorti un livre sur les perles des mots d'excuses de parents, qui a eu pas mal de succès, qui avait fait beaucoup rire, parce que on voyait les parents en train d'essayer de défendre leur petit rejeton qui venait pas à l'école ou qui faisait pas le travail. Là, qu'est-ce qui t'a donné envie ? C'est tout ce qu'on entend sur l'éducation nationale en ce moment ? Parce que le livre s'appelle Omerta, c'est ça, dans l'enseignement ?
Omerta dans l'éducation nationale. Mm-hmm. C'est-à-dire, moi, j'aime tout ce qui est l'humain, en fin de compte. Et donc, la vie est faite de moments très drôles, c'est ce que j'ai voulu traduire dans mon excuse, et de moments tragiques, et c'est ce que j'essaie de traduire dans Omerta dans l'éducation nationale. Et puis, en ce qui me concerne, l'école publique m'a aidé à emprunter l'escalier social. Je n'aime pas dire ascenseur, c'est trop rapide. Et c'est parce que justement j'ai eu la chance d'être avec des enseignants extraordinaires que j'ai réussi à terminer personnel de direction. Et j'ai mon cœur qui saigne quand je vois l'état actuel de l'éducation nationale. Et je me dis que finalement, il suffirait uniquement de la bonne volonté pour que ça fonctionne. C'est-à-dire que tout le monde parle de l'éducation nationale en disant que c'est une catastrophe. On incrimine les élèves, on incrimine les parents, on incrimine les professeurs. Et on n'incrimine jamais les gens qui dirigent tout ça. Et ce sont ces dirigeants, ce sont ces hauts fonctionnaires qui, à force de consignes hors sol, provoquent des conflits entre les professeurs et les personnels de direction, avec les parents, avec les élèves, etc. etc. Et ça devient invivable. Et il est grand temps que ces gens-là rendent des comptes.
Alors, c'est un peu étonnant parce qu'on va dire que l'éducation... Alors, il y a aussi le grand débat. Où se fait l'éducation ? Est-ce que c'est l'éducation ou c'est l'enseignement ? Est-ce que c'est les parents qui forment ? Est-ce que ce sont l'école qui forme ? Ça, c'est une grande interrogation.
Moi, je suis de ceux qui pensent que l'éducation, c'est l'affaire des parents et qu'il devrait y avoir un ministère de l'instruction nationale, non pas d'éducation. Je pense que l'éducation se fait au sein de la famille. Ça, c'est une opinion personnelle.
Alors, ce qui est un peu étonnant, c'est dans ton livre, tu fais des constats, mais des constats qui ne sont pas d'aujourd'hui ou d'hier, c'est carrément d'avant-hier, alors que c'est un des points les plus importants de l'évolution d'un être humain, et même au niveau de sa carrière, le fait d'avoir, bien travaillé à l'école, d'avoir bien appris, de savoir écrire, de savoir lire, de savoir compter. Comment ça se fait que depuis des années, ça traîne comme ça ? S'il n'y a pas de prise de conscience, il n'y a pas une envie d'aller de l'avant ?
Mais je crois que de nombreux hauts fonctionnaires de l'éducation nationale ne sont en fait que des petites gens. C'est-à-dire qu'ils ne voient que leur propre intérêt, encore une fois. C'est-à-dire qu'ils n'en ont rien à faire que le petit gamin de banlieue ne réussisse pas. Mmh. Ces gens-là, ils mettent leurs enfants dans les établissements d'élite. Donc, on en a au plus haut niveau. Hein. Mmh. Le ministre précédent, Pap Ndiaye, a mis sa progéniture à l'école alsacienne. Pourquoi pas, hein, mais ensuite, on ne peut pas se permettre d'avoir de grandes idées et on ne peut pas se permettre de prétendre, justement, vouloir le bien de tout le monde. Donc, que ces gens-là prennent leurs responsabilités une fois par mois pour toucher leur paye, ben, c'est leur problème. Mais qu'ensuite, qu'ils laissent les enseignants exercer leur métier en toute sérénité et qu'ils arrêtent de faire pression sur les chefs d'établissement justement pour que ça rejaillisse. Okay. En gros, qu'ils laissent les professionnels du terrain se débrouiller tout seul, tranquillement, sans leur donner de consignes, et tout ça, et ça ira bien mieux. Ça ira bien mieux parce que les gens qui sont face aux élèves, ils savent comment s'y prendre, ils n'ont pas besoin de consignes complètement stupides, ils n'ont pas besoin qu'on pipote les chiffres, tout ça. Tout ça, c'est une grande mascarade, et moi, je suis malheureux de tout ça.
Comment ça réagit quand tu sors un livre comme ça? Parce que je suppose que l'éducation nationale ne doit pas être très heureuse de voir une production pareille.
Alors maintenant, je suis à la retraite. Mais j'ai donné un exemple qui illustre bien tout ça. Il y a quelques années, j'ai sorti un livre, un poil à gratter, et j'ai été convoqué par ma hiérarchie, la plus haute hiérarchie, c'est-à-dire le recteur. Le recteur, il y en a 30 en France, ce sont vraiment de très hauts fonctionnaires, il y en a un par région. Et je me doutais bien que ça allait chauffer pour mon matricule. Et donc, avant d'aller à cet entretien, j'ai demandé si je pouvais venir avec un avocat. Parce que je me doutais bien que ça allait... Bah oui, parce que je me disais, là, je vais avoir une sanction et tout. Et donc, le secrétaire général du rectorat m'a dit, non, c'est pas la peine. On sentait qu'il était fâché, mais il m'a dit que c'était pas la peine. Donc, je suis allé à cette convocation. En face de moi, j'avais donc le recteur, encore une fois, aux fonctionnaires, il y en a 30 en France. J'avais le directeur académique, il y en a un par département, c'est-à-dire une centaine en France, donc très hauts fonctionnaires aussi. Et donc le secrétaire général du rectorat, il y en a aussi une trentaine en France, donc très hauts fonctionnaires. Et pendant une heure, à 3 contre 1, ils m'ont prouvé que j'étais minable, que je n'avais pas à écrire ça, etc., etc., sans se rendre compte que finalement, si j'avais écrit tout ça, c'est parce que c'était leur management qui provoquait ce dysfonctionnement. Mais après, justement, en tant que supérieur, m'avoir traité de tous les noms, je n'ai aucune sanction. Pourquoi? Parce que c'est paradoxal. C'est-à-dire que tous ces gens-là ont tellement peur de faire des vagues, ils savaient très bien que s'ils me sanctionnaient, je me défendrais, et donc il y aurait des vagues. Donc, entre quatre murs, par oral, ils me traitent de tous les noms, mais ensuite, terminé, tout va bien, il ne s'est rien passé. Et ça, c'est la mentalité générale de l'éducation nationale. On essaye de tout couvrir. Malheureusement, l'actualité, là, il y a encore un pauvre ado qui s'est suicidé à Poissy, un lycéen. Alors évidemment, toutes mes pensées vont à la famille et je n'ai aucun avis là-dessus. Mais moi, pendant des années et des années, j'ai eu, comme tous les chefs d'établissement, des élèves harcelés dans mon établissement. Et à chaque fois qu'on a appelé la hiérarchie pour justement résoudre le problème, la hiérarchie a toujours couvert. Il a toujours minimisé. Et quand la hiérarchie prenait une décision, c'était pour changer le harcelé d'établissement, ce qui est paradoxal. La victime est deux fois victime. Voilà. Et donc, dès qu'il y a un problème, c'est ça. On met la poussière sous le tapis. C'est ce qui est insupportable.
Alors, il y a un truc qui est important à signaler. Moi, je ne le savais pas, je l'ai découvert. C'est que simplement, les chefs d'établissement sont évalués sur la tranquillité de leur établissement scolaire.
Exactement. Voilà. Et ça, c'est très important. Oui. Et c'est l'essence même de tous les problèmes. C'est-à-dire, c'est une question très intéressante. Donc, les professeurs, eux, bon an, mal an, ils suivent leur carrière de manière à peu près linéaire. D'autant plus que maintenant, il y a des consignes données aux inspecteurs pour ne pas saquer un mauvais prof, puisqu'on manque de profs. Donc, il ne faut pas en plus il faut tous les titulariser.
C'est pas drôle. Je trouve ça, c'est tellement vrai, mais je trouve ça catastrophique. C'est tout.
Ah mais oui, moi j'ai plusieurs inspecteurs m'ont dit ça. Texto, encore une fois, dans mon bureau, à l'oral, ils m'ont dit « Ah, ce prof, c'est un vrai boudin, mais je suis obligé de titulariser parce qu'on en manque dans sa discipline. » Voilà texto ce que m'a dit un inspecteur un jour. Alors que donc, les chefs d'établissement, eux, sont évalués uniquement par leur supérieur hiérarchique. Et leur supérieur hiérarchique leur donne, toujours oralement bien sûr, des consignes de pas de vague. Le directeur académique exige des chefs d'établissement de bonnes statistiques et surtout pas de vague, il se passe rien, tout va bien dans les établissements scolaires, aucune incivilité, aucune atteinte à la laïcité, etc. etc. Donc, le professeur lambda qui se fait insulter par un élève va voir son chef d'établissement en lui disant « Monsieur Intel, cet élève, il faudrait qu'il passe en conseil de discipline parce qu'il embête tout le monde, etc. » Le chef d'établissement, il a le choix. Soit il écoute son professeur et il soutient son professeur et il fait passer l'élève en conseil de discipline, donc il est mal vu par sa hiérarchie et sa carrière est terminée, on le placardise, soit le chef d'établissement dit au professeur, mais non, c'est pas grave, vous en faites pas, remettez-vous un petit peu en cause, etc., etc. Et là, il est bien vu par sa hiérarchie, et donc il obtient sa mutation, sa promotion. Donc en fin de compte, la plupart des conflits, et Dieu sait s'il y en a, entre les équipes de direction et les professeurs, c'est dû au management de l'éducation nationale qui tient à ce qu'il n'y ait pas de vague. C'est une catastrophe, parce qu'au final, évidemment, c'est l'élève qui en subit les conséquences.
Bah oui, parce que c'est vrai que bon, moi j'ai entendu dire que l'éducation nationale est même cherchée au Pôle emploi des gens pour enseigner, des gens qui n'avaient pas d'expérience, qui n'avaient jamais été face aux élèves, qui n'avaient pas de pédagogie ou qui ont fait une formation très rapide et tout. Voilà.
Dans tout ce qu'on a... je vais vous raconter encore une anecdote. Une collègue, il manquait un professeur d'allemand dans son collège. Il y a une mère d'élèves qui est venue. Bonjour madame la principale. J'ai passé quelques années en Allemagne, si vous voulez, je peux dépanner. La chef d'établissement a appelé l'inspecteur d'allemand. L'inspecteur d'allemand, au téléphone, lui a dit, bah, écoutez, passez-moi cette dame. Ils ont discuté 2 minutes en allemand. Et l'inspecteur a donc, la principale a repris le téléphone. Et l'inspecteur lui a dit, bon, bah, écoutez, c'est bon, elle maîtrise la langue. Vous pouvez la mettre devant les élèves demain. On verra ensuite pour tout ce qui est administratif. Voilà le recrutement des professeurs aujourd'hui.
Oui, mais c'est, on va dire que sur le principe, on prend ça sur une bonne intention. C'est-à-dire qu'au moins, il y a un prof face aux élèves.
Alors là, ça, est-ce qu'on met un prof face aux élèves ou est-ce qu'on met un animateur socio-culturel ?
C'est pas de moi.
Mais, non, mais moi, pourquoi pas ? Il y a un prof face aux élèves. Pourquoi pas ? Seulement, il ne faut pas ensuite raconter partout qu'on a 96% de réussite au bac.
Ah oui, tout à fait.
Vous voyez, il faut. Moi, ce que je reproche, c'est la malhonnêteté intellectuelle de tous nos dirigeants. Et tous les témoignages dans mon livre, donc Omerta dans l'éducation nationale, convergent. C'est-à-dire qu'il y a les paroles d'un côté et les actes de l'autre.
Tous les enseignants acceptaient de parler ou ils étaient un peu hésitants ?
Ah non, alors là, ce n'est que sur la base du volontariat. Et j'ai adressé ça aux chefs d'établissement parce que les professeurs, les professeurs, on les entend. Mais les chefs d'établissement, les personnels de direction, c'est une omerta totale. Ils ont un devoir de réserve et on leur fait bien comprendre que s'ils parlent, c'est terminé. Et c'est la première fois qu'effectivement, des personnels de direction osent s'exprimer de manière anonyme, parce qu'ils risquent trop pour leur carrière, mais au moins, c'est couché sur le papier. Et j'espère qu'effectivement, il y a un tas de gens qui vont lire ce livre, de manière à pouvoir savoir exactement ce qui se passe dans les coulisses de l'éducation nationale, et pourquoi on en arrive à la situation actuelle.
C'est un peu inquiétant. Moi, je pense souvent à l'enquête PISA, qui nous classe, si ça continue, on va être classé comme un pays sous-développé.
Mais bien sûr, et évidemment, ça ne peut pas en être autrement. Ça ne peut pas être autrement.
Le livre sort quand ?
Aujourd'hui. Vous avez donc.
J'ai l'exclusivité, carrément. J'ai la petite surprise aujourd'hui, d'accord ?
Voilà, exactement.
On le trouve dans toutes les bonnes librairies, je suppose, on peut passer commande ?
Bien sûr.
Il y a moyen de passer commande donc ? Quelque part sur un site internet.
Oui, je vais pas faire de publicité, mais sur tous les sites en ligne, sur toutes les librairies, dans tous les espaces culturels, bien sûr, il est partout. Il a été diffusé parce que encore une fois, c'est important de savoir ça. C'est la première fois qu'on dévoile les coulisses. La première fois que chefs d'établissement osent s'exprimer.
Et espérons qu'il y ait une prise de conscience et que ça soit, il y ait des solutions qui soient trouvées, parce que bon.
Je l'espère sincèrement. Ouais. Je l'espère sincèrement parce que, évidemment, comme dans toutes les professions, vous avez des canards boiteux. Hein, mais globalement, je veux dire, les gens qui viennent à l'éducation nationale, ce sont des gens motivés. Et les gens, quand ils entrent, ils sont motivés. Et c'est au fur et à mesure qu'ils sont démotivés. Et pourquoi sont-ils démotivés, justement ? Essentiellement à cause de ce management. Parce que un professeur qui entre dans une classe, il a envie de transmettre. Il n'a pas envie d'être insulté. Donc, et petit à petit, quand il a des problèmes et qu'on refuse d'admettre ses problèmes, ben, il abandonne.
C'est un constat très vrai, malheureusement.
Oui, c'est moins drôle que mot d'excuse, hein. Ça c'est sûr, c'est sûr.
Non, mais ça traduit la réalité, ce qui est une bonne chose, parce que c'est vrai que moi je me rappelle d'un ami qui a arrêté d'enseigner parce qu'il disait qu'il voulait plus mettre sa vie en danger. Je trouvais ça très très fort, mais bon.
Oui. Non, mais c'est certainement, certainement.
Ok, écoute, merci pour ce nouveau rendez-vous, plein de bonnes choses pour le livre. Et puis en espérant te voir présent dans l'actualité et dans les médias de manière très conséquente pour parler de ce constat qui est un constat vrai. Merci à toi.
Merci beaucoup. Merci.